Un très gros chiffre, 18,8 milliards. Total Energy, le géant pétrolier, a réalisé un bénéfice donc de 18,8 milliards d'euros au premier semestre 2022. C'est trois fois plus qu'à la même période l'an dernier. Des résultats, bien sûr, en lien avec, d'une part, l'activité économique qui fut bonne et l'augmentation très forte de l'essence à la pompe. Jean-Marc Daniel, on sait que vous êtes hostile aux supertaxes, mais tout de même, quand vous voyez ce chiffre-là, vous ne dites pas qu'ils devraient mettre un peu la main à la poche ?
Ben, ils mettent de toute façon déjà la main à la poche. Hein. Ils sont déjà soumis à un impôt. En plus, effectivement, il y a une partie qui est réalisée à l'extérieur, à l'étranger, donc de toute façon, on ne pourra pas y accéder. Non, je pense qu'encore une fois, vous citiez les profits d'aujourd'hui sont les investissements de demain.
Ah, je vous cite. Hein,
c'est oui, oui. Mais c'est
vous vous autocitez.
Célèbre qui a été pour la première fois mise en avant par Helmut Schmidt, qui était chancelier socialiste allemand. Et la suite, il y avait une fin, une conclusion, c'était les emplois d'après-demain. Mm-hmm. Et je crois qu'effectivement, en ce moment, Total a besoin d'avoir des moyens pour préparer demain et après-demain.
C'est-à-dire par que ça s'appelle des investissements
Total, par des investissements. Il s'agit d'assurer la convergence vers une nouvelle forme d'énergie, Total Energy. Et donc, ils ont besoin de moyens financiers. En outre, c'est une entreprise qui est en concurrence. Donc, effectivement, elle a annoncé qu'elle est éventuellement utiliser une partie de ses bénéfices à baisser ses prix. Et donc le consommateur en sera un des principaux bénéficiaires. Donc je ne vois pas pourquoi on se porterait, pour des raisons à mon avis encore une fois de démagogie et de fiscalité spectacle, à l'assaut de ces profits qui sont utiles.
C'est vrai, on l'a vu que Total Energy a déjà reversé 500 millions de Français via les ristournes sur l'essence.
À tous les Français.
À tous les Français.
Même aux plus riches qui n'en ont pas besoin.
Donc voilà. C'est juste une question de ciblage.
Donc ça veut dire que c'est pas ciblé. Donc ça veut dire que c'est pas une entreprise de prendre la décision de ce qui est juste et de ce qui n'est pas juste. Ensuite, on revient sur la question sérieusement et autrement qu'à travers des éléments de langage sur la question des super profits. Ça fait 40 ans qu'on nous dit il faut réduire la taxation, ça va libérer les énergies des entreprises qui vont pouvoir investir toutes seules comme par miracle dans la transition écologique. Ça n'est pas arrivé. Par ailleurs, on sait très bien qu'en fait, quand on regarde les études, quand on empêche finalement parfois, quand on est dans une démesure, quand on empêche un euro de dividende, on voit qu'en fait les entreprises sont forcées à investir et ça c'est factuel. Par ailleurs, c'est pas une position.
Vous avez des exemples ?
C'est des exemples, ce sont les études qui le prouvent. Hein. Après, quand on regarde la proposition qui a été faite, c'est pas une question de droite ou de gauche. Cette proposition sur la taxation des super profits, elle vient d'où ? Commission européenne. Commission européenne, pardon, c'est du compromis gauche-droite.
Et l'ONU également.
L'ONU, l'OCDE, tout le monde, en fait, Parlement européen. Ça a été voté, encore une fois, par la gauche et par la droite. C'est du compromis, c'est un principe de réalité. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on fait beaucoup de dépenses pour pouvoir soutenir les ménages. Faut le faire. Faut le faire parce qu'il y a des gens qui sont en difficulté. Et que si on ne finance pas l'État, c'est absolument intolérable. Là, en fait, on est dans quelque chose qui est très classique, qui s'appelle mutualisation des pertes, privatisation des profits. C'est du grand classique. Et à un moment, il faut que l'État siffle la fin de la récré. Je vous rappelle que la Commission européenne est en faveur de cette taxation, que plusieurs pays l'ont mis en place. Et ce ne sont pas des pays communistes, j'en veux pour preuve, le Royaume-Uni.
On va y revenir tout à l'heure.
Mais Gaël Mac, c'est vrai qu'en même temps, l'État a dégainé le quoi qu'il en coûte. Il a reversé beaucoup d'argent pendant la crise aux entreprises. Est-ce que ce serait quelque part un retour logique de la part des entreprises pour vous ?
En tout cas, sans préjuger de cette taxation des super-profits, de ce débat conjoncturel, ce qui m'interpelle, c'est qu'à l'argumentation du gouvernement, qui depuis 2-3 ans est toujours la même, qui est « on n'augmentera pas les impôts, on n'augmentera pas les impôts, on n'augmentera pas les impôts ». Je trouve que pour une puissance publique, se priver du levier de l'impôt d'avance, c'est-à-dire dire dans ma politique, je m'interdirai sur l'ensemble de mon mandat d'augmenter tout impôt, quelque impôt que ce soit. C'était déjà une argumentation qui avait été utilisée pour le Covid. À un moment, on voulait une taxe spéciale Covid. C'est un argument qui a été utilisé sur les droits de succession quand il y a eu un peu des réflexions sur ce sujet. Je trouve que c'est un peu étrange. Ça peut se comprendre dans le sens où la France a un grand historique d'instabilité fiscale qui est quand même nocif, qu'on a aussi en France su faire des taxes temporaires qui devenaient des taxes définitives. C'est pas génial. Cependant, je veux dire, je trouve que cet argumentaire, les circonstances sont exceptionnelles. On peut subir des crises, etc. L'État est déjà très endetté, a un déficit abyssal. Il doit financer quand même des aides lourdes qui se comptent en milliards aux ménages, à un moment, il faut que quelqu'un paye et ça ne peut pas être
alors,
que l'État.
Situation exceptionnelle, remède exceptionnel ou pas, Jean-Marc Daniel? D'autant, je le rappelle quand même, que l'impôt ponctuel sur les sociétés était de 33%, il a été diminué à 25%. Donc il y a quand même une marge pour le gouvernement
par
Emmanuel Macron depuis 2017.
Oui, je rappellerai qu'il a même été à 50% et il a commencé à baisser à partir de Laurent Fabius, qui était Premier ministre socialiste.
Donc il y a une marge, vous allez dans mon sens.
Voilà, et ensuite il a et
dans le
programme de baisse d'impôts systématiques qui est mis en place, vous parlez d'Emmanuel Macron, mais il a été lancé par Manuel Valls, Premier ministre socialiste. Donc je pense qu'il y a une unanimité, on l'a dit, gauche-droite, pour dire qu'il y a un moment où trop d'impôts tue l'impôt. Et deuxième élément, cette idée qui est que l'idée, effectivement, il vaut mieux confier de l'argent à l'État plutôt qu'au secteur privé. C'est-à-dire que l'argent qu'on le prendra, il ne sera pas sous forme de dividendes, est une idée, à mon avis, qui est erronée. C'est-à-dire que on a l'impression que les dividendes, ils sont thésaurisés, que les gens qui reçoivent les dividendes les mettent dans des coffres forts.
Et donc les actionnaires.
Les actionnaires que ça dort dans des coffres forts.
C'est 44 milliards en France, hein, quand même, je le rappelle.
Oui, c'est 44 milliards, ces 44 milliards, ils sont réinvestis. C'est-à-dire les actionnaires, effectivement, qui reçoivent cet argent, utilisent cet argent pour financer le développement d'autres entreprises. Les dividendes, c'est un moyen de faire circuler les profits totaux vers des secteurs qui sont des secteurs en développement, des start-up, des endroits où les gens qui reçoivent ces dividendes vont investir. Et le dernier élément, on l'a dit, je crois que le gros problème de la France, c'est quand même l'instabilité fiscale. Il y a des économistes qui parlent de fiscalité quantique. C'est-à-dire, si vous comprenez ce que vous êtes capable de payer aujourd'hui, vous ne savez pas ce que vous allez payer demain. En revanche, si vous savez ce que vous allez payer demain, vous ne pouvez pas savoir ce que vous allez payer aujourd'hui, comme dans la mécanique quantique, ou si vous savez où vous êtes, vous ne savez pas où vous allez, si vous savez où vous allez, vous ne savez pas où vous êtes. Et donc cette fiscalité quantique, il faut y mettre un terme. Et donc je crois que Bruno Le Maire a raison, il faut fermer la porte et à double tour.
Et voilà, parmi les pays de l'OCDE.
C'est des modèles sociaux quand même généreux. Si on décide de moins taxer, très bien. Mais dans ce cas-là, il va falloir expliquer aux gens, on peut aller vers un modèle de sécurité sociale comme
l'État providence,
qui vous coûte,
qui vous coûte très cher, etc. Ensuite, moi, je pense qu'effectivement, on a tous des structurations économiques différentes, mais on a déjà eu des taxes sur les superprofits en France. On en a eu pendant la Première Guerre mondiale, la taxe sur les profiteurs de guerre, exactement.
Donc,
c'est quelque chose
qui n'a pas été pérenne, donc qui se sont pas installés, qu'on a su.
Qui n'a pas été pérenne, et ça a été également le cas aussi aux États-Unis, pays là aussi hautement communiste.
Qui a 90%
donc, à un moment donné. On doit faire en permanence face à un moment où il faut faire face de faire preuve pardon, de pragmatisme, mais dans une situation très compliquée. Un gouvernement conservateur a mis en place cette taxe sur les superprofits au Royaume-Uni. En France, on est en train de chercher plein d'éléments de langage pour pouvoir dire non, on ne va pas faire cette taxe.
L'Allemagne, ils sont généralement.
L'Allemagne, exactement, il va y avoir un taxe. Moi, je préférais qu'en fait le gouvernement assume sa position.
Dites-le à votre voisin.
Et dise, mais mon voisin, j'aimerais qu'il soit encore plus un vrai libéral. C'est-à-dire que... Oui, parce qu'on manque de libéraux en France. En fait, on a toujours des néolibéraux, c'est-à-dire qu'ils nous disent... l'État, c'est très bien quand il aide les entreprises. Par contre, quand il réclame la contrepartie, ça ne va pas du tout. Ça ne s'appelle pas du libéralisme. Le libéralisme, c'est moins d'État. Ça s'appelle du néolibéralisme. Ça s'appelle mettre l'État au service des plus puissants. Et ça, par contre, ça ne va pas. Et c'est exactement ce qu'on a en France. Je préférerais qu'on ait un État qui nous dise en fait, j'ai une politique de classe, finalement. Ce serait beaucoup plus clair. Là, je trouve que les éléments de langage qui nous disent à chaque fois qu'il y a un problème en France, on met une taxe, on est le pays le plus taxé, etc., etc., ça fait du mal, en fait, au débat public. À un moment où, je le dis encore, l'hiver va être très dur, d'un point de vue économique, social et in fine démocratique, dans un moment
où le Rassemblement
national très élevé, moment populiste. Je ne jouerai pas à ça.
Une réaction ? Et après, Gaël Mac.
Je veux moins d'État. Je ne veux pas un État qui serve le capitalisme de connivence. Je suis pour la concurrence, moins d'État et pour un capitalisme vraiment libéral. Alors, je ne sais pas s'il est libéral, néolibéral, ultralibéral.
Plus d'aide pour les entreprises.
Plus d'aide pour les entreprises.
Voilà.
Je veux qu'on supprime les aides pour les entreprises, qu'on baisse les impôts des entreprises, mais qu'on supprime toutes ces aides, toute cette connivence.
C'est un vrai libéral.
Je ne sais pas, mais en tout cas, je suis contre la connivence.
Gaël Mac, en même temps, Geoffroy Roux-Bézieux, le patron du MEDEF, le patron des patrons, va dans le sens de Jean-Marc Daniel, c'est-à-dire que c'est l'État qui...
Le super-profiteur,
selon lui. Avec une cagnotte très importante actuellement, est-ce qu'il n'a pas raison quand il dit cela? Est-ce que ce n'est pas l'État qui devrait montrer l'exemple aussi en étant peut-être encore plus généreux qu'à
aller
chercher l'argent
vers
les entreprises?
Il n'a pas raison parce que, en fait, l'État n'a pas augmenté sa contribution. L'impôt sur les sociétés n'a fait que baisser, il est à 25% cette année. Il se trouve que cette année, les entreprises font d'excellents profits, donc mécaniquement, l'État en profite plus, parce qu'il a des recettes fiscales. Il faut quand même voir que l'État, il sort de 2 ans de grandes disettes fiscales. Je veux dire, en 2020 et en 2021, personne ne venait dire l'État Voilà, je veux dire.
Dépenser plus qu'il ne
reçoit. Voilà. Bon, et par ailleurs, certes, l'État reçoit plus en impôts sur les sociétés, mais on en est quand même aujourd'hui plus ou moins à 25 milliards d'aides aux ménages sur les carburants, sur le bouclier tarifaire de l'électricité, du gaz. Je veux dire, ce sont des dépenses considérables. Et à un moment, on s'est dit, c'était le discours de Jean Castex, si vous vous souvenez, l'ancien Premier ministre Jean Castex, qui disait, c'est une bosse, l'inflation, en avril, ce sera terminé et on pourra revenir à un régime normal. Maintenant, on a prolongé
bientôt
le régime jusqu'à la fin de l'année
et
plus personne n'ose dire que c'est temporaire.
C'est par différentes façons pour le faire. Il suffit de prendre, par exemple, la différence entre la profitabilité des entreprises entre 2018-2019 et maintenant. Et on fait la différence et on voit que si ça a énormément augmenté, on taxe ce montant-là. C'est toujours comme ça qu'on a fait dans l'économie. On peut faire aussi quelque chose de plus efficace et plus simple. C'est Gabriel Zucman qui proposait ça, de dire sur la valorisation de marché, en fait. Comme ça, c'est visible.
Ça veut dire quoi, valorisation de marché ?
Le cours de la bourse, d'accord, on va dire très facilement. Voilà. On regarde la valorisation.
Sauf qu'il fait du yo-yo, ce cours de la bourse.
Mais bien sûr.
Alors donc, vous baisseriez les taxes quand les profits sont moindres, par exemple ?
Mais alors, c'est la taxation des surprofits. Donc, il suffit de mettre en place
une opération. Est-ce que vous le faites dans le sens inverse ?
Il n'y en a pas. Dans ce cas-là, il n'y en a pas. Et par ailleurs, rappelons aussi que la France est le pays de l'OCDE qui aide le plus les entreprises. Donc, à un moment, il va falloir commencer à équilibrer un petit peu les choses. Mais en tout cas, on a toujours réussi à le faire. On a réussi à le faire pendant la Première Guerre mondiale, pendant la Seconde Guerre mondiale. Je ne vois pas pourquoi, techniquement, tout d'un coup, ce serait subitement impossible à faire.
Vous allez réagir, mais on va d'abord vous faire écouter quelqu'un, Jean-Marc Daniel.
Parce que Michel-Édouard Leclerc, lui, dit que ce serait une usine à gaz, qui a un problème de faisabilité. Écoutez-le, il était hier matin sur France 2.
Déjà, on ne sait pas taxer les profits des grands groupes. Alors, les super-profits, là aussi, c'est un slogan. C'est comme les jets, c'est comme les jet skis. Si on les taxe, c'est pour en faire bénéficier le consommateur. Je ne sais pas si c'est faisable. Je crois que tout le monde en parle, mais personne ne le fait.
Jean-Marc Daniel, c'est de la fiscalité spectacle, comme vous le dites, justement, la paternité de cette expression.
Ce qui vient d'être dit, je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit. D'autant plus que, effectivement, quand on prend les exemples des guerres, pendant les guerres, la population payait l'impôt de sang. Quand on a augmenté la fiscalité à cette époque-là, et quand on l'a augmenté dès le 19e siècle, chaque fois qu'on a augmenté la fiscalité pendant une guerre, on a exonéré les soldats de toute forme de fiscalité. Parce qu'on n'est pas dans une situation équivalente. Et je pense, en outre, que on a parlé d'usine à gaz, on est au-delà de l'usine, c'est la zone industrielle sur le plan fiscal.
En termes de faisabilité
En termes de faisabilité, c'est incompréhensible. Ce qu'on mettrait en place.
Il
s'agit déjà de définir ce que c'est qu'un super profit. Alors il va falloir se mettre d'accord sur la définition de super profit.
Et puis, avez en une phrase, et puis vous aussi, c'est quoi un super profit ?
Je ne sais pas, donc on évite d'en parler.
Et Aurore Laluc, vous savez ?
Mais ça, c'est défini démocratiquement, en fait.
Il faut le référendum d'initiative populaire.
Non, pas forcément. Ça peut être fait par la représentation. Ensuite, quand on entend parler de l'infaisabilité technique, c'est pas possible, c'est de la fiscalité spectacle. Mais mon Dieu, ça existe déjà. Dans plusieurs pays. Par ailleurs, c'est la Commission.
Qui taxe moins, on le sait, la Grande-Bretagne est très loin de nous avec des services publics qui ne sont pas à la même hauteur.
Quand on regarde sur l'IS, la France est en dessous de la moyenne de l'OCDE sur l'impôt sur les sociétés. Donc quand on regarde dans le détail, en fait, il y a quand même beaucoup de choses assez différentes.
En tout cas, ils taxent pas moins.
Juste pardon.
Mon parti populiste n'aime pas les grands patrons.
Mais qui n'est pas contre un référendum, celui que propose la gauche au Horlaïque. Est-ce que vraiment il faut prendre le peuple comme arbitre dans ce genre de décision ?
Si ça bouge pas, c'est la démocratie, il faut faire vivre la démocratie. Et si ça bouge pas du côté du gouvernement, oui, bien sûr, il faut le faire à mon avis. Et ensuite, moi, en tant que pro-européenne, on a un gouvernement qui s'est toujours affiché pro-européen. J'aimerais bien qu'il le prouve maintenant.
Jean-Marc Daniel.
Même question.
Non, je pense que la démocratie, justement, s'est fondée sur le fait que le budget, les problèmes fiscaux sont traités par un parlement. Depuis le XIIIe siècle, le fonctionnement de la démocratie britannique, c'est qu'on demande à des représentants d'être un filtre entre les discours démagogiques et les besoins de la société. Et je pense que tout le monde doit comprendre que trop d'impôts tue l'impôt, qui est la formule que reprend plus ou moins implicitement Bruno Le Maire, et qui est quand même une formule assez vraie.
Et c'est pour ça qu'on a fait l'accord OCDE. Cette année, parce que justement, on avait une course au moins-disant fiscal, que plus personne ne payait la peau, et qu'il a fallu que l'OCDE, donc 136 pays, se mettent autour de la table et signent un accord pour qu'on arrête cette folie de justement trop l'impôt, tue l'impôt, qui est en train de tous nous tuer aujourd'hui, de plus nous donner les moyens.
Avec une fiscalité mondiale.
Avec une